avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines aujourd'hui pour bien commencer l'année, apprendre à parler en public avec un public en chair et en os ou sur internet d'ailleurs, pourquoi pas, ou encore à la radio si vous voulez passer dans le débat de Juan Gomez sur RFI. Pendant longtemps, on a dit l'internet, c'est le grand retour de l'écrit pour communiquer, et puis il y a eu la déferlante des vidéos, des gens qui racontent leur vie, qui expliquent, qui montrent ou qui poussent un coup de gueule. Un discours bien ficelé, bien prononcé, posté sur internet peut faire de vous une célébrité d'un jour. D'où la question, quels sont ces nouveaux pouvoirs de la parole? Peut-on apprendre à parler, à convaincre, à émouvoir son auditoire? Nous allons en discuter avec vous, Anaïs Coq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène, coach d'hommes et de femmes politiques. Et également avec nous, un avocat spécialiste d'art oratoire. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous êtes aussi le très charismatique formateur en art oratoire à l'Université Paris 8 Saint-Denis pour le concours Eloquentia. C'est une extraordinaire aventure qui a fait l'objet d'un documentaire. Et quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, que vous soyez timides, alpagueurs, gouailleurs, appelez-nous si vous avez envie d'apprivoiser la parole. Laissez vos certitudes, vos doutes ou votre talent au vestiaire. Et puis ouvrez tout simplement une page blanche. Et surtout, appelez-nous dès maintenant. N'attendez pas la fin de l'émission. Vos questions, vos témoignages nous intéressent au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous continuez de poster sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Facebook, tiens, je vous lis des messages. Moustapha, à Bamako, au Mali, nous dit « La parole s'apprend comme tout le reste, il faut être logique et cultivé pour arriver à convaincre dans le débat. Il faut être cohérent, ne pas défendre une chose le matin, une autre le soir. Logique cultivée ?» D'accord, pas d'accord, Bertrand Perrier?
Absolument d'accord. Logique, parce que si l'argumentation n'est pas cohérente et part dans tous les sens, elle ne peut pas être convaincante. Et puis cultivée, parce que bien évidemment, la parole ne naît pas de rien et elle naît de son passé et donc de sa culture.
Al-Mustapha est à Niamey. Alors lui, il se désespère. Je n'arrive jamais à convaincre dans les débats. Même si je crois en mes positions, à leur justesse, ça ne fonctionne pas. C'est frustrant. Je ne sais pas bien défendre mes arguments. Vous entendez ça parfois, Anaïs Coq?
Ah oui, j'entends ça pratiquement auprès de tous mes clients.
Je sais que j'ai raison, mais je ne sais pas le prouver.
C'est ça. Oui, c'est toujours très compliqué de mobiliser son auditoire à la fois intellectuellement et en même temps affectivement, puisqu'il y a toujours une part de soi qu'on doit donner, qu'on doit livrer à l'autre pour le convaincre. Et c'est souvent cette part-là qui est la plus compliquée pour les gens à donner.
Oui, dans mettre ses tripes sur la table.
Un peu, pas trop, faut pas envahir l'autre non plus avec ses émotions, mais un peu, oui,
ah oui.
C'est nécessaire. Et ça, c'est la balance. C'est très difficile pour que ça soit pas trop émotionnel.
Où se situe la frontière?
Où se situe la frontière entre la manipulation émotionnelle et puis l'efficacité?
Jean-Claude à Bujumbura au Burundi, on devrait s'inspirer des prêtres et des pasteurs qui, eux, savent convaincre en Afrique.
Alors, j'ai peu de familiarité avec les prêtres africains, mais en tout cas, il y a dans la culture occidentale une vraie tradition de l'éloquence religieuse, de l'éloquence de la chair. Et quand on tonnait à l'époque, depuis la chair, alors maintenant ça ne se fait plus beaucoup, mais bien évidemment, les religieux, parce qu'ils ont un contact direct avec le divin, sont de magnifiques porteurs de parole.
Et pour vous mettre en appétit, voici ce que disait Thierno Bokar, grand sage soufi au Mali. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair éloquence et le noyau bon sens. Allez, appelez-nous maintenant. 33 1 84 22 71 71.
Yeah. 7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Il y a quelques semaines, donc, Eloquentia a lancé la saison 2017 pour le concours d'éloquence. Donc, c'est la cinquième saison, hein, c'est ça?
C'est la cinquième saison, ouais. Qui se lance samedi.
Avec une joute oratoire entre deux orateurs. Alors, pour donner envie aux étudiants de s'inscrire, hein, puisque vous êtes l'un des formateurs, eh bien, Alice Milot, a rencontré l'un des finalistes de l'édition 2015, Eladj Touré.
Mon sujet, faut-il se lancer? Vous pouvez vous lancer si l'envie vous en prend, mais c'est à vos risques et périls. Et tous ceux qui vous diront le contraire, qui vous diront que se lancer est synonyme de progrès, tous ceux-là auront tort, parce que jamais le progrès ne pourra lancer l'homme, car c'est à l'homme de lancer le progrès.
Je m'appelle Elad, j'ai 26 ans, J'ai eu mon master en sociologie l'année dernière, je suis plus étudiant cette année. En 2015, j'ai participé au concours Eloquentia. Ben, je suis arrivé troisième en fait.
Pourquoi vous vous êtes inscrit à ce concours en fait au départ?
Bah, au départ, c'est un très bon ami à moi. En fait, il a créé une équipe de football américain au sein de la fac, au sein de Paris 8. Bah, moi aussi, j'ai intégré cette équipe. Et au départ, quand il nous avait parlé du concours, lui, il était finaliste. On est allé le voir. On avait adoré le concept. C'était génial et tout. Mais je pensais vraiment que c'était pas pour moi. J'ai toujours eu l'impression que bien parler ou même prendre la parole devant autant de personnes, j'ai toujours pensé que c'était pas fait pour moi.
C'était de l'autocensure au fond.
Quelque part, oui. J'ai quand même développé un certain complexe. J'ai grandi toute ma vie en banlieue. Et c'est vrai qu'en général, en banlieue, on a nos propres tics de langage et notre façon de nous exprimer. Donc pour moi, quand j'étais gamin, vraiment bien parler la langue, la maîtriser, c'était quelque chose qui était réservé aux professeurs ou aux adultes. Et moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est une de mes profs de français au lycée. Elle m'a initié à la lecture, en fait. J'ai découvert un univers et un monde qui était extrêmement grand, extrêmement vaste, extrêmement ouvert. Enfin, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Et du coup, on s'intéresse à ce mot-là, on va le chercher. Et en cherchant ce mot-là, on en découvre d'autres, et ainsi de suite. Et petit à petit, sans même m'en rendre compte, une fois arrivé à la fac, j'avais perdu la plupart de mes tics de langage.
Justement, vous parlez de langage banlieue. Comment vous le définiriez?
Un langage qui est très brut, qui est simple parfois, qui est direct aussi, qui est franc. On va utiliser des mots forts pour se comprendre les uns les autres. Quand on entend « wesh » par exemple, pour nous, c'était pas quelque chose de néfaste, de négatif ou quoi, c'est vraiment, on voyait ça comme une terminaison. On dit « mais arrête wesh, mais pourquoi tu fais ça wesh ?» Sans s'en rendre compte, ça s'imprégnait en nous et on le répétait à chaque fois. Et ces petites choses qui posent problème aujourd'hui, mais on peut les oublier, on peut les perdre. Moi, je trouve quand même que dans ce langage justement de banlieue ou ce langage un peu brut, il y a des choses intéressantes. Parce que pour nous, le monde extérieur, entre guillemets, bah déjà, il y avait un monde extérieur et un monde qui n'était pas ouvert à nous. Donc, quelque part, c'était un outil, enfin, ou un élément qui nous permettait de nous rassembler, de nous protéger, en fait, de nous sentir unis, de nous sentir écoutés, en fait. Le problème, c'est que, en ayant un vocabulaire, entre guillemets, un peu plus limité, on s'empêche de s'ouvrir à certaines choses ou d'accéder à certains milieux. C'est, malheureusement, on va pas se mentir aujourd'hui, une personne qui s'exprime très bien, ben, on aura beaucoup plus tendance à, entre guillemets, lui accorder sa confiance. Et, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème, nous, en banlieue, c'est un peu ça. On se bride beaucoup, alors qu'on est capable de faire énormément de choses.
Alors, donc, Eloquentia, donc, du coup, vous avez fini par franchir le cap, vous vous êtes dit j'y vais. Comment ça s'est passé ces plusieurs mois de formation, puis ce concours à la fin?
C'était très intense. La formation, elle dure 6 semaines, mais honnêtement, avec tout ce qu'on a appris en ces 6 semaines, c'est des choses qui vont me servir tout au long de ma vie. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, les cours de Loubaki m'ont permis d'avoir une approche de l'écriture un peu plus différente, un peu plus construite. Et avec Bertrand, par exemple, lui m'a appris à organiser mes idées, à mieux m'exprimer, à correctement aussi susciter de l'émotion chez les gens.
Il y a des outils.
Le mot est un peu fort, mais je dirais même que c'est des armes. Quand on sait s'exprimer correctement ou quand on arrive à s'exprimer correctement, on peut limite conquérir le monde en fait. Mais je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans ce genre d'exercice. Dans le sport que je pratique, le football américain, le club universitaire est un club officiel dans lequel je fais partie. J'ai été capitaine des deux équipes et c'est vrai que quand on est capitaine, on est souvent amené à beaucoup prendre la parole pour motiver un peu ses troupes, quoi. Ben, à la fin de l'année, après cette formation, je trouvais plus facilement mes mots. J'étais plus convaincant, j'étais plus galvanisant en fait. Et c'est vraiment dans ces moments-là, dans tous ces petits moments du quotidien, que j'ai réalisé que la formation était extrêmement utile.
Il y a d'autres choses que ça a changé pour vous et en particulier peut-être pour votre parcours professionnel?
Oui, clairement, très très clairement. Enfin, là où ça m'a beaucoup aidé, c'est que moi en fait là aujourd'hui ce que je veux faire c'est du développement durable. Et avec un ami et mon père, on est parti en Afrique de l'Ouest pour créer une école là-bas. Ça c'était en 2009. Maintenant ça commence à marcher et tout. Là cette année en 2017 on va commencer à se concentrer sur des projets agricoles. Pour avoir des partenariats ou même de l'aide de certaines personnes, ben, il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre le projet et j'ai beaucoup plus de facilité là-dedans.
Vous êtes arrivé jusqu'en demi-finale, c'est ça?
Oui, je suis arrivé en demi-finale et du coup j'ai fini 3e du concours.
C'est un beau résultat.
Franchement, c'est au-delà de toutes mes espérances. On a participé à la formation, il y avait tellement de talents autour de nous que je me disais que j'allais jamais réussir à même passer le premier tour.
Il y avait combien de personnes en tout qui participaient?
Au total, cette année-là, on était un peu plus de 110. Donc sur 110 candidats, franchement, arriver 3e, c'est incroyable.
Votre famille, elle était fière de vous aussi?
Ah oui, très très. Moi, c'est ma mère et mon père, ça a créé une vive émotion chez eux. Ils ont toujours été très axés sur les études, eux, ils n'ont pas eu la chance d'en faire. Ma mère et mon père sont issus de Guinée. Malheureusement, quand ils sont arrivés en France, c'était dans des conditions qui étaient un peu plus difficiles. Ils fuyaient la pauvreté et la misère là-bas. Si vraiment ils se sont donné autant de peine, c'est pour que nous, on ait la chance de pouvoir s'en sortir. Ben, ça les rend fiers en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien et eux ils s'en rendent pas compte, mais pour moi c'est les premiers à m'avoir vraiment à m'avoir donné toute cette passion en fait.
Bertrand Perrier, vous participez à ce programme Eloquentia, vous êtes l'un des formateurs. Pourquoi la parole, à votre avis, aujourd'hui a un nouveau sens, une nouvelle place dans nos sociétés ou pas spécialement?
Alors, la parole a d'abord une place dans les sociétés depuis les Grecs anciens, et probablement encore auparavant, mais je crois qu'on se rend compte aujourd'hui de l'importance qu'a la parole, et Ella, je le dis très bien dans le reportage que vous venez de diffuser, parce que en parlant, on dit d'abord qui on est. Avant de dire ce que l'on a à dire, on dit qui l'on est, et dire qui l'on est, ça peut être très discriminant aussi. Se laisser enfermer dans son langage, dans un langage qui serait purement de l'invective ou du borborigme, de la nomatopée, ça a vite fait de faire de vous quelqu'un qui est incapable de s'insérer socialement. Et donc on a vite fait aussi de s'enfermer dans son langage, et c'est précisément le but de formations comme Eloquentia, d'aider les jeunes à sortir de leur déterminisme dans lesquels leur langage originel peut éventuellement les enfermer.
Anaïs Coq, ce nouveau sens de la parole, par exemple avec Internet, a pris une autre envergure également.
Moi, je dirais pas forcément que ça a pris une autre envergure. Je dirais que maintenant, la communication est vraiment identifiée comme un outil de dépassement social, éventuellement, mais de dépassement de soi, surtout. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire de se dire la parole peut me permettre de transcender à mon milieu social, ou du moins le cadre dans lequel je m'enferme moi-même. Hein, c'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre qui nous enferme dans des systèmes et dans des cadres. Et je crois que maintenant, on identifie bien la parole et la communication comme des outils de dépassement de ce cadre-là. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant.
Et surtout, en deux clics, on a un public.
Ah oui, alors en plus, mais sur Internet, il y a une ouverture qui est complètement incroyable. Mais ça reste de la communication. Alors, c'est pas la parole, mais c'est de la communication sur son image de marque, Internet. Ouais. Donc, ça reste quand même fort à ce niveau-là.
Vous préparez, vous, Anaïs Coq, des étudiants au concours de l'ENA qui comporte une épreuve orale. Dans quel état d'esprit sont vos étudiants par rapport à ceux qui sont à Paris 8 et qui prépare le concours Eloquentia, qui là est un concours que l'on prépare, qui ne rapporte pas de crédit universitaire.
C'est sur la base du volontariat, d'un côté comme de l'autre.
Oui, ce sont des enjeux personnels, en fait.
C'est d'abord se prouver quelque chose à soi-même. Et d'ailleurs, ceux qui ne réussissent pas dans le concours à gagner ou à être en demi-finale, ont en tout cas gagné le plus beau combat, qui est celui qu'on mène contre soi-même en luttant contre sa peur de parler.
Oui. Alors, et pour les jeunes, souvent issus, au contraire, de l'élite qui prépare l'ENA.
Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans une prépa à l'université Paris 1, donc il y a un grand mélange d'étudiants, c'est pas du tout que des jeunes issus de l'élite, bien au contraire, donc c'est plutôt intéressant. Et malgré tout, c'est aussi un concours que souvent les étudiants abordent comme un dépassement de soi. Donc je tente l'ENA, c'est le concours le plus incroyable dans le fantasme, et je le tente pour voir si je suis capable justement d'intégrer cette élite, cette fameuse élite.
Ouais. Et la dimension de la parole là-dedans ?
La dimension de la parole, elle est, je dirais, plus qu'essentiel. C'est magistral par rapport à ce dépassement de soi. C'est-à-dire, entre mes étudiants qui appartiennent au milieu social qui est fait pour l'ENA, si je caricature un petit peu, qui viennent d'une famille, d'une longue lignée, c'est une évidence. Ils ne se posent pas de questions. Pour tous ceux qui appartiennent pas à cette élite-là, voire qui en sont très très loin, c'est un combat contre eux-mêmes, justement. C'est vraiment l'idée.
Dans la prise de parole
Y compris dans la prise de parole, mais surtout dans l'entretien, c'est-à-dire le fameux grand oral, ce qu'on appelle le grand oral, l'entretien, où ils doivent parler d'eux-mêmes. Et là, quelle est ma valeur à moi ajoutée? Comment je peux l'exprimer? Quel mot je choisis pour exprimer ma valeur ajoutée? Et surtout prouver au jury que je suis unique via mon parcours et via mes propres mots qui sont adaptés, mais en même temps qui m'appartiennent. Et ça, c'est vraiment très intéressant comme combat, justement.
Et ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est aussi le décalage qui existe aujourd'hui entre l'importance que revêt la prise de parole. On est dans une société où la parole est absolument partout. Elle est sur Internet, vous venez de le rappeler. Elle est dans les médias. On est dans une société où la communication est d'abord orale. Et paradoxalement, l'oralité est le grand oublié de la formation. Au collège, alors hormis des initiatives individuelles merveilleuses, depuis la diffusion du documentaire à voix haute sur France 2, je reçois beaucoup de messages d'enseignants qui, sur leur initiative personnelle, ont monté dans leur collège, dans leur lycée, dans leurs universités, des formations à leur oralité.
Parce qu'ils croient personnellement à l'oralité.
Parce qu'ils y croient.
Documentaire de Pascal de Frétas, dont je n'ai pas encore donné le nom, qui a été diffusé sur la chaîne France 2 et qui sera donc d'ailleurs dans les salles de cinéma, on l'espère, au printemps prochain.
Voilà, donc ce documentaire qui raconte l'aventure Eloquentia. Mais donc depuis que ce documentaire a été diffusé, on est destinataire de beaucoup de messages d'enseignants qui ont monté des initiatives autour de la parole. Mais traditionnellement, il y a une inhibition du système scolaire et universitaire français à l'égard de la parole qui est en décalage total. Et du coup, avec l'importance qu'elle revêt, et du coup, on a des élèves qui arrivent à des niveaux importants, peut-être même jusqu'à passer des concours aussi prestigieux que celui auquel vous préparez, et qui n'ont jamais reçu de formation à la prise de parole
en public. Vous avez des jeunes qui partent de rien, 48 heures de formation avec vous et d'autres formateurs, hein, il y a des slameurs, des comédiens, etc. 6 semaines, et ils arrivent à des sommets.
Des sommets, je ne sais pas, d'abord ils les avaient probablement
en eux. Une progression
qui
est spectaculaire.
Oui, alors après, il y a toujours une part de don dans la parole publique, ça il ne faut pas se mentir, il y a une parole de charisme personnel, il y a quelque chose sur lequel on ne peut rien. On ne devient pas un orateur génial en 48 heures, c'est pas vrai. On a quelque chose qu'on se révèle à soi-même. Et nous, on est juste là pour essayer de faire en sorte qu'ils se révèlent toutes leurs potentialités. Nous, on est des petits arrosoirs qui font germer des graines, mais les graines, elles existent déjà. Sur un sol aride, on ne peut rien faire. Mais simplement, on essaye de lever des inhibitions et de potentialiser des choses qui existent déjà chez eux.
Moi, juste par rapport à l'histoire du don, parce que, pardon, mais c'est quelque chose que je défends beaucoup, je dirais, j'appellerais pas ça don, moi j'appellerais ça des facilités. C'est-à-dire que je pense que selon son éducation, justement, la parole qu'on nous a donnée enfant, et là c'est pas une question de milieu social, hein, c'est une question de la place que nous ont donné les adultes enfants pour parler. Par exemple, les gens qu'on a rencontrés, ça crée des facilités à pouvoir prendre la parole, qui en effet font qu'en 48 heures, on peut avancer très vite. Mais je rassure quand même, c'est-à-dire que sur le travail, sur la base du travail, et de coach ou de formateur, de faire émerger les qualités de chacun et justement toutes les petites choses qu'il y a déjà à l'intérieur et qu'on va faire émerger dans la formation, mène quand même sur un long travail à pouvoir devenir un bon orateur ou une bonne oratrice.
Bon alors les voisins, si vous voulez devenir avocat, slameur, comédien, commerçant ou bonimenteur, que sais-je, vous pouvez nous appeler pour dialoguer avec nos invités et poser toutes vos questions au 33 1 84 22 71 71.
De voisins, c'est sur RFI.
Les voisins, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle en France lors de son discours de la porte de Versailles, c'était en décembre dernier. Et nos invités Bertrand Perrier et Anaïs Coq ont l'air totalement accablés dans le studio. C'est pourquoi ? C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, vous les spécialistes de l'art oratoire ?
Alors moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée, ça c'est sûr de faire ça.
C'est-à-dire de faire quoi ?
C'est-à-dire de se mettre à hurler comme ça en faisant la personne justement qui émotionnellement peut se dépasser et qui peut craquer, sortir de son carcan. Pardon, je suis assez sceptique. Hein, moi, ça fait longtemps que je travaille dans la communication politique. Je suis toujours assez sceptique sur ce pétage de câble.
Ah, carrément, vous dites pétage de câble parce qu'on se met à crier dans un micro, à haranguer.
À son niveau de candidat à la présidentielle, oui, c'est identifié comme un pétage de câble émotionnel, hein, j'entends, pas psychologique, mais moi je suis toujours un peu sceptique sur le côté spontané de la chose. Hein. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui est
Bertrand
un peu
Perrier.
Préparé là-dedans.
Alors moi, je ne suis jamais posé la question de la préparation de ce moment étonnant d'Emmanuel Macron. Je crois pas, j'en sais rien. Peut-être effectivement que c'était préparé. Enfin, si c'est préparé, c'est quand même très étonnant. Enfin, moi, j'y vois quand même...
Dites quoi, il a le mauvais professeur, c'est ça ?
Non, ça je sais pas. Puis, s'il a des professeurs ou des coachs, je lui souhaite d'ailleurs. Sinon, Anaïs va lui donner ses coordonnées.
Bon, en tout cas, vous restez avec nous, les voisins et les voisines, évidemment, vous pouvez nous appeler. On parle de la prise de parole en public qui est omniprésente aujourd'hui en public, sur Internet, hein, bien sûr, tout public. 33 1 84 22 71 71. Bertrand Perrier, Anaïs Coq, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle des nouveaux pouvoirs de la parole aujourd'hui. Comment apprendre à parler, convaincre, toucher, en public, bien sûr, mais aussi dans des vidéos sur Internet. Il y a maintenant la déferlante des conférences TEDx, hein, où on parle de soi, on raconte une histoire, mais avec du sens derrière, une forme d'universalité aussi qui puisse toucher un public large, une forme de partage, d'école de la vie. On en discute avec vous, Anaïs Coq, vous êtes metteur en scène, coach d'hommes et de femmes politiques. Et puis Bertrand Perrier, vous êtes avocat spécialiste d'art oratoire, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation et formateur en art oratoire à l'Université Paris 8 Saint-Denis pour ce fameux concours Eloquentia dont on parlait. Un concours, au départ, il y a une centaine de candidats, un premier tri, un premier écrémage, plusieurs ensuite, plusieurs épreuves, c'est bien ça ?
Oui, il y a des tours semaine après semaine. Je crois qu'on démarre en effet à presque 120, 130 candidats
et
on arrive à une finale devant un amphi bondé et chauffé à blanc avec des jurys qui sont souvent, alors il y a quelques avocats et puis il y a quelques stars de la chanson, du théâtre, de l'humour.
6 semaines pour se préparer, 48 heures de formation et c'est un concours qui est très populaire hein, dans l'université auprès des jeunes.
Ah oui, alors parfois ils ont beaucoup de mal à se lancer, mais alors une fois qu'ils se sont lancés, ils amènent leurs amis avec eux. Et alors, ils ont leur claque dans l'amphi et ça devient un vrai événement à Paris 8. Et dans les derniers tours, on a des amphis avec 600, 700 personnes. Je crois même qu'il y a une diffusion dans un autre amphi. Enfin, c'est devenu effectivement un vrai événement.
Et ce concours Eloquentia donnait lieu à ce documentaire qui s'appelle À voix haute de Pascal de Freitas, diffusé sur la chaîne France 2 en novembre et qui sera dans des salles de cinéma au printemps prochain. On écoute un extrait.
C'est cool de parler en fait. C'est bien d'écrire, mais parler c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire, tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie.
J'ai un rapport à la parole qui est plus difficile qu'avec l'écriture. C'est vrai qu'étant petite, j'étais plutôt solitaire, pas beaucoup d'amis. Et je suis beaucoup plus à l'aise en écriture, à l'écrit. Enfin, pour moi, c'est... L'écriture, c'est même pas une façon, en fait, c'est pas un passe-temps, en fait, j'en ai besoin. Et quand j'ai commencé à avoir ce déclic, à me dire oui, mais il va falloir quand même s'exprimer en public, tu peux pas rester comme ça éternellement. T'as quand même des idées à partager et ce serait dommage de les laisser pourrir en intérieur. La parole, faut pas l'attendre, en fait, faut l'arracher. Et c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que si j'attends éternellement ce qu'on me donne une voix, qu'on me donne une parole, je peux attendre éternellement, en fait.
Essayez donc de lui expliquer qu'il était en son droit, qu'il avait le droit de tuer son fils, car il avait le droit de commettre cette erreur. En cours, lorsque nous faisons une erreur, lorsque nous faisons une faute, nous sommes sanctionnés, nous perdons des points. À la cour, lorsqu'un criminel est condamné, c'est parce qu'il a fait une erreur, c'est parce qu'il a commis une faute, c'est parce qu'il a enfreint ses droits. Par conséquent, l'erreur ne peut être un droit, vu qu'elle va à l'encontre des vôtres. L'erreur n'est pas un droit, mais plutôt son contraire. Au lieu de marcher droit, on marche de travers. On trébuche et on bûche, on se retrouve à terre. On arrive si bas qu'on côtoie Lucifer. C'est ce que l'erreur est et ce qu'elle vous fait faire.
Voilà, un extrait du documentaire de Stéphane de Freitas, pardon pour la petite erreur sur le prénom, qui a été diffusé sur la chaîne France 2. Dans quel état d'esprit faut-il être pour apprendre à parler ? Bertrand Perrier.
Il faut être dans l'état d'esprit que on doit se forcer un peu. Et si c'est pas naturel, il y a un moment où il faut sortir de soi-même et se dire que c'est important de parler aux autres. On vit dans un monde connecté, de communication avec autrui, et il faut, pour les gens pour lesquels ça n'est pas naturel, à un moment, sortir de son cercle vicieux, de sa timidité, et se dire que on va se faire un peu violence. C'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'il vous prescrivait des médicaments et vous ne les prenez pas. Vous ne guérirez jamais. Donc à un moment, il faut se faire violence pour parler, mais c'est une tellement douce violence.
Alors évidemment, on a pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Par exemple, Casimir qui nous dit: que doit faire quelqu'un qui est timide pour vaincre la timidité afin de laisser s'exprimer sa pensée? Ou encore Yedim qui est à Kaolack au Sénégal: comment faire pour s'exprimer sans peur ni stress devant une foule? C'est quand même l'appréhension numéro un, ça.
Bien sûr, il y a plein de choses à faire. Bon, déjà de bien respirer avant, les exercices basiques de gestion du stress, déjà ça aide un petit peu à se sentir mieux. Après, il faut partir de ses qualités. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire avant de prendre la parole, j'identifie ma qualité. J'en ai une, forcément. Je l'identifie et c'est cette qualité qui va me permettre justement de faire ce petit chemin violent, justement, dans un premier temps, et qui va m'amener à pouvoir prendre la parole. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est prenez le temps. C'est-à-dire que remplir son temps de parole par un flot de parole, par exemple un débit extrêmement accéléré parce qu'on a peur et qu'on veut en finir, c'est le meilleur moyen de se planter. Plus je prends le temps, je fais des pauses, je prends des temps, je vis ma prise de parole dans l'instant présent. Je ne suis pas tendue vers la fin de ma prise de parole.
Plus je prends le temps.
Plus j'ai peur, plus je prends le temps et j'arrête d'identifier mon auditoire comme un ennemi. C'est-à-dire que j'en fais mon allié. Donc je me connecte à lui. J'ouvre un pont de communication. Je fais des blagues. Je désamorce, par exemple, c'est le grand truc. Je désamorce. Je rentre en relation avec mon auditoire et je prends le temps de vivre ce moment dans le présent. Je ne suis pas tendue vers la fin de mon discours. Sinon, comme je dis toujours à mes étudiants et à mes clients, la prise de parole n'a pas lieu.
Mais ceux qui ont du talent, ceux qui ont le talent de la parole, on a le sentiment qu'ils parlent avec appétit, avec un plaisir. Alors, est-ce que c'est un plaisir narcissique ? Est-ce que ça doit être un plaisir du partage ? Quelle est cette supériorité-là par rapport à d'autres ?
Alors, je crois pas qu'il y ait de plaisir narcissique à parler, parce que sinon, on fait ça dans sa salle de bain devant son miroir, et ça n'a aucun sens. La parole, elle n'a de sens que si elle sert à faire partager ses convictions à d'autres. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un plaisir narcissique de parler. Et ce serait d'ailleurs une mauvaise parole que celle qui serait tournée sur elle-même. La parole, elle est toujours tournée vers autrui. C'est autrui que l'on doit chercher. Et donc, non, je ne crois pas du tout qu'il y ait un plaisir personnel à parler.
Ça veut dire penser à l'autre en permanence, à celui qui reçoit la parole.
Oui, parce que la parole a ceci de particulier par rapport à l'écrit, par exemple. Quand j'écris, je ne sais pas pour qui j'écris. J'écris un livre. Je ne sais pas qui le lira. Et d'ailleurs, il sera peut-être lu demain, après-demain. En revanche, la parole, je sais à qui je parle. En ce moment, je vous parle à l'une et à l'autre. Et puis, je parle évidemment aux auditeurs de RFI. Donc, ma parole, elle est dédiée à ceux auxquels je parle. Et donc, je sais très bien à qui je parle maintenant, aujourd'hui et à vous.
Mais vos étudiants, vous les faites écrire, on les voit dans le documentaire qu'ils lisent souvent des petites notes sur leur téléphone, sur leur smartphone. Parler, c'est d'abord écrire, c'est la première étape ou pas pour vous ?
Alors, l'écrit peut être évidemment un début de prise de parole, mais j'insiste aussi beaucoup sur le fait que la parole, c'est d'abord un jaillissement du moment, sur l'instant. Écrire, ça peut être un bon point de départ, mais il ne faut pas que ça vous enferme. Avec un papier, on a vite fait d'avoir une prison. C'est-à-dire que ça rassure d'avoir un papier. Il y a l'effet doudou.
Ils ont tous leur papier, là, les jeunes, avec qui
vous travaillez. Oui, mais parce qu'ils ont encore, ils sont encore au début de la prise de parole. Et puis le papier, ça rassure. On a l'impression que la mémoire peut aider à parler dans l'instant. J'essaye.
Vous les faites jeter leurs notes parfois, non ?
Oui, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'ils accèdent à une parole spontanée et du moment. Parce que le papier, même physiquement d'ailleurs, c'est une barrière entre celui qui parle et celui qui écoute. Donc la parole, elle est libre si elle est dans l'improvisation. Le papier, c'est une prison.
Oui, alors il faut faire attention que le papier ne devienne pas une barrière en effet entre soi et son auditoire. Après, ce doudou, pour moi, il est essentiel au départ quand j'ai des clients qui sont très timides justement, qui ont vraiment, pour qui c'est une violence terrible de parler.
Donc des clients, des politiques, hein, essentiellement.
Ou des étudiants aussi par ailleurs. Je leur conseille d'avoir un papier au départ. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des gens autour d'eux qui leur disent « Non mais jette ton papier » et ils se retrouvent dans des conditions, des situations de prise de parole tellement horribles où ils ne savent plus ce qu'ils ont
c'est
à dire.
Qu'après, ils sont traumatisés. Mais vous êtes venue avec une petite fiche quand même, Anaïs.
Oui, mais oui, parce que moi, en plus, si vous voulez, étant donné que j'oblige mes clients à venir avec un Bristol sur des plateaux de radio et télé,
Bertrand
j'ai pas le droit
d'en avoir. Les mains vides. Bon, deux écoles,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, exactement, deux écoles. Après, moi, c'est aussi un doudou, hein, je l'assume complètement. J'ai toujours besoin d'avoir par écrit ce que je dois dire, alors que c'est des choses que je répète à longueur de semaine, donc je les connais bien.
Comment se fait ce passage de la préparation à l'improvisation ? Puisqu'au bout du compte, le bon orateur est celui qui arrive dans une phase d'improvisation, en tout cas d'impression de non-préparation.
Il y a une part d'improvisation, bien sûr, au bout d'un moment. Et heureusement, quand on maîtrise très bien son sujet, très bien son fond, il y a une part d'improvisation. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, la part d'improvisation, elle se situe dans le relationnel qu'on va avoir avec son auditoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être capable vraiment d'être à l'écoute de l'auditoire, de voir ce qu'il a envie aussi, lui, d'entendre. On va pouvoir lire, par exemple, sur les visages des gens à qui on parle, qui comprennent pas très bien ce qu'on est en train de dire. Alors, on s'arrête. Vous avez pas compris, vous voulez qu'on en parle. Et d'un coup, on va interagir agir et on va pouvoir un peu improviser comme ça. Mais ça, c'est quand on est dans l'instant présent et qu'on est en relation avec l'auditoire. Mais cet instant de grâce-là, il arrive pour tout le monde. Mais il ne faut pas se précipiter dessus. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Attendez, tranquillement, ça va arriver cet instant de grâce. Je dis pareil aux comédiens sur scène, hein, d'ailleurs, quand je suis metteur en scène. Attendez, ne courez pas après l'instant de grâce, il va arriver.
Sous-entendu, ne courez pas avec la connexion immédiate avec le public.
Oui, et surtout, n'attendez pas que ça arrive, c'est-à-dire... vivez-le dans l'instant présent. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui conseillent à mes clients, à côté de ce que je leur dis, de jeter leurs papiers pour rentrer et d'arriver les mains libres, ça me fâche parce que ça les met en péril.
Bertrand Perrier, j'ai une question pour vous. De Prince qui est à Cotonou au Bénin, quelle est la place du gestuel dans l'art oratoire, nous demande Prince. J'avais appris que toute parole devait être geste, mais à un concours, j'ai eu ce reproche. On m'a dit qu'un orateur n'était pas un comédien, du coup je me sens confus, nous dit Prince.
Alors, Prince, je suis ravi que vous m'entendiez à Cotonou.
Je vous regarde du coup, je vois que vous ne bougez pas, vos mains, elles sont posées sur la table du studio.
Oui, mais parce qu'on n'est pas filmé.
Non. Si on est filmé,
alors,
mais bon.
Prince. Deux choses. D'abord, il est tout à fait exact qu'un orateur n'est pas un comédien. La raison en est qu'un comédien dit le texte d'un autre, alors qu'un orateur dit son propre texte, son propre message et sa propre parole. Deuxième chose, il est tout à fait exact que la parole passe d'abord par le geste. Avant de vous écouter, on vous voit. Et des études tout à fait scientifiques qui ont été faites sur la question concluent que l'orateur convainc que le message passe à 60% par le geste, à 30% par la voix, etc., le grain de la voix, et seulement à 10% par le message lui-même. Donc d'abord... la parole est un sport de combat au sens où c'est un sport physique. Et on vous voit avant de vous entendre. Et si vous avez les mauvais gestes, des gestes qui ne sont pas en adéquation avec le message que vous voulez faire passer, vous ne serez pas entendu. Donc Prince, sentez-vous très libre de faire des gestes en parlant. On ne peut pas faire autrement et c'est bien que ça soit ainsi.
Oui, mais alors ceci dit pour les vidéos sur Internet. Puisque maintenant, le public, c'est Internet. Ça change tout quand on est seul face à une caméra. Non, si on gesticule trop.
Alors si on gesticule trop, oui, mais justement pour le coup, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a non-congruence, et moi c'est ce que je dis, il y a non-congruence entre son non-verbal et son verbal, c'est-à-dire que ma gestuelle n'est pas adaptée à ce que je suis en train de dire. Donc là, ça devient de l'agitation. Par contre...
Alors, où se situe la gestuelle et l'agitation, la frontière ?
La frontière, c'est justement quand ma gestuelle est au service de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'elle suit assez naturellement ce que je suis en train de dire et justement ma relation avec mon auditoire. Après, moi je tiens à dire une chose, parce que je n'appartiens vraiment pas à cette famille de communicants qui considère qu'un geste veut dire traduire une émotion ou un message pour tout le monde le même. Genre, j'ai les bras croisés, ça veut dire que je suis fermée. Bon, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Je pense qu'on est tous différents là-dessus et qu'on a le droit de croiser les bras et être ouvert à la conversation. Ça nous permet parfois de se recentrer, de se concentrer. On a peut-être mal au dos, on a peut-être froid. Enfin, tout le monde a son explication. Donc, la gestuelle, par contre, c'est pas pour moi une catégorie à part de communication. Mais ma gestuelle doit être adaptée à ce que je suis en train de dire. Et quand je sens qu'il y a de l'agitation, il faut que je la calme. C'est ce que je dis pareil à mes clients. Calmez-la en posant les mains, par exemple, justement sur la table, plutôt que de s'agiter dans tous les sens.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Jonathan.
Oui, bonjour. Hein, bonjour.
Vous êtes en direct chez 7 milliards. Nous vous écoutons.
Oui, en fait, j'étais devant les postes de la radio. Donc, du coup, j'ai suivi l'émission, mais je me suis mis
Vous avez bien fait.
Voilà, donc je n'ai pas trop bien compris, mais en fait, c'était surtout, j'étais en train de parler sur la confiance en soi lors des prises des paroles en public, si c'était bien ça.
Oui, c'est exactement
et
ça.
Donc, en fait, moi, c'est quelque chose que je dois être amené à faire plus souvent par rapport à mon travail, surtout parce que je travaille on héberge des associations, donc on fait souvent des réunions de vie associative pour qu'on mette en place des règles et des vies, des choses comme ça. Donc du coup, je serai amené à prendre la parole devant un nombre de personnes.
Ouais.
Et parallèle aussi, je travaille dans l'événementiel. Donc j'ai une équipe que je dirige. Et du coup, on est sur Internet, forcément sur les réseaux. Et ben, du coup, on doit être aussi amené à prendre, je dois être amené éventuellement à prendre des paroles pour expliquer tout ce qu'on fait et sur un large... un public.
Et vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous prenez la parole, c'est ça
En fait, même là, l'effet de vous parler en direct, je perds déjà en fait mes repères.
Ah bah écoutez, vous êtes très clair, on vous comprend très bien, on vous écoute, on a du plaisir à vous. Non, Bertrand Perrier, vous êtes d'accord?
Ah oui, moi je suis totalement avec vous, Jonathan.
Alors quel est votre problème finalement, Jonathan?
Bah, Les problèmes, en fait, ça serait surtout, en fait, dès que je vois des gens devant moi, tout ce que j'avais même à l'idée, c'est-à-dire, c'est ce manque de confiance, en fait, qui fait que je me perds, en fait, directement. Mmh. Et souvent, je perds aussi mes paroles. C'est-à-dire, j'arrive plus à formuler des phrases. J'adopte, en fait, des attitudes où, en temps normal, j'arrive, en fait, c'est-à-dire à m'exprimer librement.
Vous ne parvenez pas à vous concentrer sur ce que vous voulez dire, en fait. Vous perdez un peu le fil de votre pensée, c'est ça.
Je perds tout de suite, en fait. Du coup, en fait, sur ça, j'ai quitté même les postes de la radio pour pouvoir... C'est sentir comme si j'étais au téléphone avec une personne à haute fréquence en ligne, quoi. Vous voyez, on dirait.
Ah oui, d'accord, vous avez éteint mais ceci dit, vous avez bien fait, parce que sinon ça fait un écho. Mais vous êtes bien au téléphone avec nous, hein, même si vous êtes en direct et que vous êtes écouté par un petit peu plus de monde que nos invités dans le studio. Anaïs, que peut-on conseiller à Jonathan?
C'est toujours la même chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire attention de ne pas considérer son auditoire comme un ennemi. Liez-vous à votre auditoire. Quand vous rentrez dans la salle, regardez-le, désamorcer une petite blague ou une remarque sur votre état. Vous avez le droit de dire, moi c'est ce que je dis toujours, à tout le monde, je précise bien, à tout le monde, même à un chef d'entreprise, même une grande entreprise du CAC 40, vous rentrez, vous avez le droit de dire, je suis fatigué, je suis un peu stressé, je suis un peu à côté de mes pompes ce matin. Je suis ému. Tout le monde rigole, ça détend. Tout le monde, tout va bien se passer. Et puis
ça rend humain, surtout.
Ça rend humain, et l'auditoire aussi. On se souvient qu'on a des humains en face de soi et non pas des ennemis. Donc déjà, ça, c'est la première chose à faire. Quand vous prenez la parole, si jamais vous oubliez un moment ce que vous avez à dire, c'est pareil, il n'y a pas de drame. Ce sont des mini-drames permanents que nous vivons quand nous prenons la parole.
Ouais, on pilote pas un 747, hein, on est bien d'accord.
Il n'y a pas de drame.
C'est ce que je dis à certains de mes invités pour les déstresser avant l'antenne.
Voilà, mais attention, quand je dis il n'y a pas de drame, je ne minimise pas ce qu'on traverse. C'est simplement qu'il faut essayer de le désamorcer.
Bertrand Perrier, vous qui faites preuve dans le documentaire où on vous voit former des jeunes, à la fois d'une grande bienveillance et de beaucoup d'exigence.
Oui, ce que je veux dire à Jonathan, c'est qu'il est totalement normal d'avoir peur, ou d'avoir en tout cas une appréhension, avant de parler en public. C'est le signe que l'on a une exigence sur soi. Si on a peur, c'est qu'on a peur de se décevoir et de décevoir les autres. Si on n'a pas peur, c'est qu'on n'a aucune exigence, qu'on n'attend rien de soi. Donc il est plutôt rassurant d'avoir peur. J'ai peur à chaque fois que je prends la parole, j'ai peur à chaque fois que je plaide, et... je pense que je mourrais comme ça. Simplement, au bout d'un moment, on apprivoise sa peur et on fait en sorte qu'elle ne vous inhibe pas, mais qu'elle vous stimule. Donc c'est juste ça qu'il faut arriver à faire, Jonathan, c'est de vivre avec sa peur. Elle ne vous abandonnera pas, simplement vous l'apprivoiserez.
Vous êtes un ancien grand timide, Bertrand Perrier ?
Bien sûr ! Moi, j'étais très timide quand j'étais petit.
Vous ne preniez pas la parole en classe ?
Jamais ! Je détestais ça, j'avais très peur du regard des autres, qui étaient, comme le dit Anaïs, plutôt considérés comme hostiles. Je me suis un peu fait violence, là encore, parce qu'on ne peut pas devenir avocat si on n'a pas un rapport à peu près apaisé avec la parole.
Jonathan, est-ce que ces conseils peuvent vous servir ?
Oui, ils m'ont vraiment aidé, surtout qu'en fait, quand j'étais plus jeune aussi à l'école, c'était la même chose, je ne prenais pas du tout la parole. On avait peur, j'avais peur du jugement des autres. Et tout ça, c'est dû aussi parce que, vous voyez, nous, on vient aussi de l'Afrique entre-temps, on a appris la langue d'ici, tout ça. Et du coup, en étant plus jeune, les gens se moquaient souvent quand on prenait la parole en public. Donc, ces trucs-là sont rentrés en nous, en fait.
Et vous voyez, vous êtes en direct sur RFI aujourd'hui et tout se passe très bien.
Tant mieux, je suis ravi.
Merci.
Et aussi, par ailleurs, est-ce que ça serait aussi, il y aurait des centres de formation, des choses comme ça, ou des formations que vous donnez spécialement pour vos étudiants ? Je ne sais pas ce que j'ai entendu comme quoi des formations.
Il y a des concours d'art oratoire dans de nombreuses universités maintenant. Il y a des clubs, c'est quelque chose qui se répand. Et puis il y a aussi les fameuses conférences TEDx, par exemple.
Oui, absolument. Il y a un bourgeonnement de l'art oratoire. Parce que d'abord, il faut quand même le dire, un plaisir à parler. C'est très agréable de partager ses idées. Et ça revient à la mode. Alors effectivement, dans les universités, il y a énormément de concours d'éloquence, des procès fictifs, il y a un bourgeonnement autour de la parole publique, il y a les conférences TEDx, vous pourrez toujours trouver votre bonheur dans des concours d'éloquence, il y en a absolument partout.
On va mettre
des
liens sur
bonheur.
Notre page. Merci beaucoup Jonathan, on mettra des liens sur la page des 7 milliards de voisins sur le site rfi.fr.
J'invoque la terre parce qu'elle me transporte et me relie profondément à mes ancêtres. J'invoque la terre car elle m'emmène dans un passé lointain et me fait ressentir tout leur mal-être.
J'invoque la foudre simplement pour la beauté du tableau. Tonnerre de Zeus comme Léonard, comme Vincent ou comme Pablo.
J'invoque le vent en soliloque qui cavale entre nous et que j'éloque.
J'invoque les ténèbres pour de funèbres raisons.
J'invoque le bois et on l'invoque tous. Donc si t'es le feu, fais que tes flammes soient douces.
Plus puissant que les éléments, que l'eau, le feu, le vent. Capable de donner la vie, mais de la reprendre aussi. Sortez tous vos testaments, car mes amis, j'invoque le sang. Qu'il soit froid comme la glace, ou bien chaud comme la braise, il aura toujours sa place sous votre peau à son aise.
Assise là par terre, je me remémore mes sœurs et mes frères. Des pleurs, des rires, ça y est, ça va finir. Grâce à eux, je suis comme un poisson dans l'eau et je garde les pieds sur terre. Sans eux, je manquerai d'air. Nous avons cette flamme dans les yeux et cette étincelle dans notre âme. Je suis dans mon élément. J'invoque ma famille de cœur. J'invoque ma famille Eloquentia.
Voilà, extrait du documentaire à voix haute du concours Eloquentia à Paris 8 Saint-Denis, dont vous êtes l'un des formateurs, Bertrand Perrier. Que faire lorsque l'on a une voix qui ne sort pas, une voix sourde? On l'entend bien, les uns et les autres ne sont pas tous servis par le même type de voix. Parce que je sais que vous avez une admiration particulière pour un certain homme politique qui n'avait pas une voix justement qui sortait bien, Bertrand Perrier, non?
Mais qui faites-vous référence?
Philippe Séguin.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé Philippe Séguin, qui avait cette voix sourde pas, comme oui. Ça. Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle sortait
grand
pas.
Grand gaulliste devant l'éternel.
Quand même une forme de ronronnement grave et qui était au service d'une pensée extraordinaire. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Séguin. Ouais.
Mais cette voix qui peut être une voix parfois intimiste, en tout cas une voix qui n'est pas une voix qui va à l'autre bout de la salle comme on peut les imaginer. Est-ce que ça peut être aussi un atout, une voix qui nécessite une forme de concentration aussi pour écouter?
Non. Alors là, je le dis très clairement, pour moi, c'est pas un atout. Alors évidemment, je parle si on est devant 100 personnes, hein. Si on est autour d'une table avec deux personnes. Ce qu'il faut, c'est être entendu. Il faut être entendu, mais surtout quand on prend la parole, il faut avoir la volonté d'être entendu. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi, c'est 50% de technique, 50% d'état d'esprit prendre la parole. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je peux travailler avec quelqu'un la voix, de manière purement technique, on va travailler la voix de ventre, on va apprendre à la faire sortir. Mais si la personne n'a pas envie d'être entendue, la voix restera au fond du ventre de toute façon. Donc il faut avoir envie d'être entendu et c'est jamais un atout de demander à son auditoire de se concentrer. Il le fera un peu, mais il le fera pas tout le temps de la prise de parole. Et surtout qu'aujourd'hui, on est à une époque où la concentration est très fragile et l'attention est de plus en plus faible. Donc non, c'est jamais un atout de ne pas vouloir se faire entendre.
Les femmes sont-elles désavantagées ou pas? On l'a beaucoup dit, on continue de le dire parfois.
Oui, elles le sont pour une raison simple, c'est que parfois les voix de femmes sont un peu plus aiguës dans les tons. J'entends. Et du coup, quand elles montent, elles sont très vite dans des aigus qui sont un peu pénibles, qui peuvent être pénibles à entendre. Attention, les hommes n'ont pas toujours la voix bien placée. Hein. Il y en a plein qui ont la voix mal placée. Mais quand elle est mal placée, elle reste un peu plus grave. Donc c'est un peu moins difficile parfois à entendre.
Pour vous, Bertrand Perrier?
Non, alors on le voit d'ailleurs dans Eloquentia, on a à peu près une parité équivalente.
Ouais,
voulue
ou pas?
Non, pas du tout. D'ailleurs, dans la finale du concours, il y a un garçon contre une fille. Et donc, non, moi je ne crois pas. Il y a par exemple dans mon milieu professionnel des avocates extraordinaires qui ont...
Majorité de femmes d'ailleurs dans cette profession. Aujourd'hui.
Bien sûr, la profession d'avocate est, je crois, à 60% désormais féminine. Et en tout cas dans les jeunes générations c'est encore plus une profession féminisée, je crois qu'on est à plus de 80% de femmes qui veulent devenir avocates, donc non je crois pas du tout qu'on puisse dire qu'elles sont désavantagées. Simplement la seule chose, c'est ne venez pas singer les hommes. Cultivez votre singularité de femme. Et n'essayez pas de fumer des gitanes maïs pour avoir la voix éraillée comme nous. Ça ne sert à rien et voilà, ne venez pas sur nos terres, elles sont hostiles.
Oui, après, justement, quand on pose sa voix dans le ventre, on a une belle voix de femme, d'homme. Enfin, on a des belles voix qui sont agréables à écouter, ouais, et qui font du bien à l'oreille, qui sonnent bien. Et on peut parler pendant des heures avec une voix bien posée dans son ventre.
Je voudrais qu'on termine sur Internet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde ces fameuses petites vidéos de gens qui s'expriment, qui donnent leur point de vue sur tout et rien. Mais en tout cas, qui sont, pour celles qui sont les plus partagées, sont très convaincantes. Aujourd'hui, on a même des vidéos qui sont sous-titrées, c'est-à-dire qu'on voit le visage, on voit les mots, mais sans la voix, puisque ça destinait à être lire dans les transports en commun, par exemple, dans le bus. Qu'est-ce que ça change, ça ? Tout ou rien pour l'expression en public ?
Ça s'éloigne pour moi un petit peu de l'art oratoire, puisque la relation qu'on a avec son auditoire directement, encore une fois, elle est très importante. Donc là, on est devant une caméra tout seul, c'est un peu différent. Je dirais que peut-être ça prépare un peu plus les gens à l'exercice médiatique, par exemple, à la rigueur. Au-delà de ça, je suis pas vraiment sûre que ça prépare à l'art oratoire. Après, la question justement de l'attention qui se perd, dont je parlais tout à l'heure, ce genre de vidéo n'aide pas non plus là-dessus.
Bertrand Perrier, il nous reste 10.
Oui, je suis absolument d'accord. Ce que ça peut illustrer malgré tout, c'est la diversité dans la prise de parole, et c'est aussi ce que défend Eloquentia, c'est que la parole, elle n'est pas unique, elle est multiforme. Elle peut être du slam, elle peut être de la poésie, elle peut être de la chanson, elle peut être du rap, elle peut être du discours classique, et dès lors qu'elle est bien faite, elle est belle.
Merci à tous les deux, Anaïs Coq, metteur en scène, coach d'hommes et de femmes politiques, Bertrand Perrier, pardon, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation et professeur d'éloquence. À demain, les voisins.